CKUT 90.3, le concert rock metal noise du groupe Pangea des Futura. C'est un rendez-vous le dimanche 22 mai, 15h, à Victo. Pour plus d'informations, visitez le www.fimav.qc.ca.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Hello! Ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CHYZ 94.3, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Il est 4h.
Bon jeudi tout le monde, on est le 12 mai, vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui on commence l'émission avec Marilyn Léonard qui est avec nous en studio pour parler de Vie d'ange qui est sortie vendredi dernier. On va aussi parler de l'ouverture de Galerie TNT à 16h15 avec Sylvain Tapin. À 16h30 je vais parler aussi avec Ultraviolette qui a sorti sa nouvelle chanson Je l'ai laissé, c'est vendredi dernier aussi. À 16h45 une entrevue avec Annie Bayard pour un concept de spectacle assez spécial. On s'en reparle à 16h45 et à 17h, il y aura Alex Tremblay-Lamarche avec sa chronique littéraire Histoire de lire. Alors voilà le contenu de l'émission pour la prochaine heure et demie. Et Chérie, j'arrive du jeudi 12 mai. Ça commence maintenant. Et ça commence maintenant avec Marilyn Léonard.
Salut!
Salut, comment ça va?
Ça va, toi?
Oui, ça va très bien. Tu es à Québec pour, entre autres, l'ouverture d'une shop de...
Oui,
de
vintage, qui apparaît vintage.
Et voilà, yes. Mais tu es aussi présente pour, entre autres, parler de Vie d'ange,
ouais.
ton mixtape qui est sorti vendredi dernier. C'est un genre de une compilation des chansons que tu as faites et d'autres nouvelles. Et ça porte un titre qui... Un genre de jeu de mots.
Ouais, effectivement.
Qu'est-ce que tu sous-entendais? On comprend que ça peut avoir de l'air d'une vie très belle, mais finalement, ça ne l'est pas.
C'est exactement c'est ça. T'as tout compris. Je fais souvent référence au fait de vouloir être bonne dans mes trucs, de vouloir vivre une vie, pas une vie sage, mais comme, c'est ça, d'être capable de plaire à tout le monde et tout. Mais en même temps, il y a aussi des embûches sur le parcours. Fait que ça fait en sorte que ça peut être beau, mais ça peut être mauvais aussi, donc, donc c'est ça, c'était là le jeu de mots, t'as tout compris.
Et voilà, et on avait eu quand même pas mal de singles, il y avait eu Bateau, ouais. Entre autres, il y avait eu Honey.
Ouais.
Et
deuxième,
on a eu le droit à des vidéoclips et on a le droit à justement un avant-goût de ce projet-là. Une fois que ça, c'est sorti, comment est-ce que tu envisages la suite? Là, si on
est laisse encore, la suite,
c'est ça, ouais. On va laisser ce projet-là vivre, mais si on, comment est-ce que tu envisages la suite? Est-ce que tu penses déjà créer bientôt? Est-ce
oui.
que tu crées ou comment
absolument.
Ça se passe?
On dirait que je me renouvelle quand même assez vite.
Okay.
Donc, c'est dès que je fais quelque chose, je l'aime pendant un bout. Puis là, j'ai envie de passer à autre chose directement. Fait que c'est un peu ça que je suis en train de faire. Je veux laisser vivre l'album, oui, pendant l'été et tout, mais je commence déjà à écrire des nouvelles chansons. Puis je commence déjà aussi à réaliser des trucs. Puis à trouver peut-être un son ou tu sais un son peut-être plus précis de où je m'enligne pour le prochain.
Ouais.
Donc c'est ça. Moi, c'est j'essaie tout le temps de renouveler mon son puis de trouver quelque chose qui colle le plus possible au moment présent. Là.
Je trouve ça drôle que tu parles de son parce que t'en as un assez particulier. T'as comme un mélange de plein de styles, de genres qui se mélangent. On peut parler d'indie pop, on peut parler de, on va dire, rap urbain. Peut-être.
Ouais,
es-tu
c'est
une
cool,
rappeuse, Marilyn?
Non, je pourrais pas dire ça. Je veux pas me m'auto-proclamer rappeuse. Mais j'aime j'aime intégrer un peu des phrasés qui sont rapides.
Ouais.
Donc, ça peut un peu avoir l'air du rap.
C'est ça.
Mais je peux pas dire que je suis une rappeuse.
En ce moment, tout le monde a l'impression que tout est du rap.
Oui, tout devient du rap, c'est fou.
Mais c'est parce que le rap en soi aussi est un mélange de plein de styles.
C'est vrai, c'est vrai.
Après ça, c'est un peu difficile d'établir le genre exact. Mm-hmm. Mais on parlait de ta création qui va s'en venir, oui. Mais aussi prochainement, et tu t'en as déjà fait, tu fais beaucoup de scènes,
ouais.
Entre autres avec pas n'importe qui, entre autres Clay and Friends.
Oui. Ouais.
Comment ça se passe? Tu fais leur première partie, après ça aussi, il y a une chanson avec eux. Mm-hmm. Comment ça s'est... passer toute cette collaboration?
Honnêtement, je pense que le fait que j'ai fait leur première partie, j'en ai fait plusieurs, c'était des grosses salles, c'était des salles qui étaient comme pleines.
Ben oui, parce que Clan Friend déjà.
Ça tourne bien. Hein.
Exact.
c'était intimidant, oui, mais ça m'a tellement comme. Ça m'a fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça l'a tellement cassé la glace pour les shows futurs que. Quand mettons, je vais être le headline, quand je vais être toute seule, tu sais.
C'est une préparation.
Oui, c'est vraiment. C'était une bonne préparation. Mm-hmm. J'ai été capable de gérer mon stress. D'habitude, j'ai de la misère avec ça, tu sais. J'ai de l'air à l'aise sur une scène, mais il y a beaucoup de stress qui se passe en dedans de moi, ça paraît pas, mais il y en a. Fait que je pense que c'était une belle expérience là, pour justement être capable de gérer comme il faut mon stress. Mm-hmm. Donc c'est ça, je suis très contente.
Il y a plein de monde parce qu'il y a aussi Fred's avec ouais. qui. Ça, c'est un autre concept par contre. Mm-hmm. Est-ce que c'est un plateau
c'est
double?
C'est un plateau
donc
double.
C'est ouais. un spectacle.
C'est comme
de
pas
la
une
même
première
longueur.
Partie, mm-hmm. c'est plus nous deux, on fait une heure, puis ouais. on n'a pas collaboré ensemble sur une chanson par contre, mais c'est ça, c'était quand même cool de partager un peu nos publics, puis de mm-hmm. se donner des conseils. Puis,
lui qui est plus, on va dire, officiellement rappeur. Que,
ouais,
que toi.
Exactement. Là, lui, il pourrait dire ça.
Exact.
Moi, je sais pas. Mais, ouais.
Puis Clay and Friends, est-ce que tu dirais que c'est des rappeurs?
Ils ont... Je sais pas. Je dirais que c'est un peu funk. Oui, ça peut être un peu hip-hop. Je pense pas que c'est rappeur, par contre.
Okay.
Mais je veux pas...
On va parler de la pop en général.
Mais... Ouais, ouais, exact.
Okay. Super. Et il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent pour toi, Marilyn. Mm-hmm. Et je trouve ça assez spécial de t'avoir en entrevue aujourd'hui à Québec parce que la prochaine fois que tu reviens à Québec, c'est pour...
Le festival.
Exact. C'est pour quand même un gros retour.
Ouais.
Comment est-ce que tu vis ça de participer au Festival d'été de Québec?
Honnêtement, ça m'a vraiment impressionnée.
Uh-huh.
Très reconnaissante, pour vrai. Je pensais pas que ce genre de festival-là allait me prendre aussi tôt dans ma carrière.
Ouais.
Tu sais, je viens de lancer ma mixtape, fait que... non, je suis vraiment choyée, là, ça comme pas d'allure.
C'est vraiment une bonne nouvelle et on va mm-hmm. se donner rendez-vous le 16 juillet.
Ouais.
Ben, d'ici là, quand même, t'as aussi d'autres spectacles. Entre autres, tu vas être au festival La Chanson de Tadoussac.
Ouais.
Ça, c'est un festival que Chiz couvrira, donc tu verras la personne qui va me remplacer ou
très cool.
d'autres personnes de Chiz pour peut-être passer à la radio là-bas. On fait okay. des émissions là-bas. On s'en reparle.
Ok, parfait.
Il y a plein d'autres dates et je vous invite à la suivre sur les médias sociaux. Allez. Prendre des nouvelles de Marilyn Léonard. Et là, on va y aller avec l'écoute de Mirage, mais ce sera pour seulement quelques instants. Après ça, tu nous fais quelle pièce, Marilyn?
Je vais vous chanter Vide Rêve aujourd'hui.
Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi tu as choisi ça?
On dirait que en live, mettons, comme des petites perfos comme ça, acoustiques, je pense que c'est la tune qui me fait le mieux pour okay. ma voix.
Ouais.
Ouais. Fait que c'est ça. Un petit coup de cœur pour Vide Rêve sur l'album.
Parfait. Ben, on y va avec Mirage, la pièce maîtresse, la pièce d'ouverture de Vie d'Ange.
Exactement.
Et après ça, ce sera ta performance. Merci pour l'entrevue, Marie.
Merci à toi, Phil. Merci.
16h10, vous êtes de retour à Chérie, j'arrive, vous écoutiez Mirage de Marilyn Léonard. Elle est avec nous en studio et elle va nous faire la pièce Vie de rêve. À toi, Marilyn.
Merci.
La vie que je veux, c'est pas la vie de rêve. Presque vomi tout le souper par terre. Je parle avec des gens qui veulent tout foutre en l'air. Pour qu'à tout le monde je plaise. Ça commence à peser lourd, lourd comme quand je produis. J'aurais aimé comprendre autant les mots en grandissant. Les blessures font qu'on grandit. J'ai guéri, le mensonge est plus cosy pour rêver en dormant. But I got no hard feelings. Working hard pour filer en douce de mes pensées. J'ai pas de trip, je m'agrippe à tout ce que je sais faire de bien. No hard feelings. Working hard pour filer en douce de mes pensées. J'ai pas de trip, m'agrippe à tout ce que je sais faire de bien. J'ai pas trouvé la force dans les livres d'école. Je prends le tour par les cornes quand je fais rien. J'écris des mots dans mon cahier selon ma philo. Le monsieur m'a dit que je fais jamais, jamais rien. But I got no school to my foyer. Ooh, ooh. Je fais mes devoirs sur la mélo. Working hard pour filer en douce de mes pensées. J'ai pas de trip, je m'agrippe à tout ce que je sais faire de bien. No hard feeling. Working hard pour filer en douce de mes pensées. J'ai pas de trip, je m'agrippe à tout ce que je sais faire de bien. No hard feeling.
Merci à toi.
L'horizon est lourd à porter. 98 me regarde partir. J'ai pas passé l'entrée. Que je sauve déjà le martyr. Le coffre plein de bagages. Je n'aurai pas besoin. J'aime prévoir les orages que je ne croiserai pas en chemin. La route se fait dans le silence. La plus belle des méfiances. Aucun de nos cœurs éclatera quand l'airbag se déclenchera. Si elle me fait pleurer un peu, je sais pas pourquoi j'ai peur. Mes parents m'envoient la main dans le rétroviseur. Et tu dors à côté de moi. J'aimerais que tu te réveilles. Tu manques le coucher du soleil. J'espère que plus tard tu comprendras. La route se fait dans le silence. La plus belle des méfiances. Aucun de nos cœurs éclatera quand l'airbag se déclenchera.
Et nous serons des millions de fracas dans un énorme champ de poussière. Et au printemps tu pousseras dans le pavé refait de travail.
plus belle des méfiances. Aucun de nos cœurs éclatera quand l'airbag se déclenchera. Et nous serons des millions de fracas dans un énorme champ de poussière. Et au printemps tu pousseras dans le pavé refait de travail. Et au printemps tu pousseras dans le pavé refait de travail.
Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Vieux Port, la chanson de Thaïs. Et il est 16h17. C'est maintenant le temps de parler de la galerie TNT. Je suis avec Sylvain Tapin au bout du fil. Salut Sylvain, comment ça va?
Bonjour, ça va bien toi?
Oui, ça va très bien. C'est aux côtés de Caroline Turcotte que vous avez finalement, que vous ouvrez même ce soir la galerie TNT. D'où part ce concept?
Ben en fait, on avait déjà pensé. C'est pas la première fois qu'on pensait ouvrir une galerie, mais tu sais, il faut toujours quelques astres qui soient alignés pour qu'un projet fonctionne. Et à ce moment-là, bon, c'était pas le bon timing. Et là, on a eu une belle opportunité qui s'est présentée. Alors, je dirais, on a tout simplement foncé à pieds joints. Mm-hmm. Puis je dirais, tu sais, il y a la pandémie, mais même moi, ma démarche était déjà. Partie en ce sens, ce que je veux dire, c'est que il y a une opportunité qui s'est présentée, on a voulu embarquer, puis on voulait pas attendre, puis on voulait pas regretter de pas le faire. Mm-hmm. Fait que bref, on s'est pas trop posé de questions quand l'opportunité s'est présentée. On a foncé, puis on est super contents pour vrai.
Exactement. Et ben pour les gens qui vont aller voir cette galerie-là, la galerie TNT, c'est quelles œuvres qui vont être exposées dans cette galerie?
Il y a Caro et moi, donc les deux copropriétaires, que nous sommes avant tout des artistes visuels, donc on est sur les murs. Mais ce qui lance en fait l'ouverture de la galerie, c'est l'exposition collective Collectif 1, qui regroupe 7 artistes, dont Caro et moi. Mm-hmm. Les autres, on a Fred Jourdain, qui est quand même très très connu là au Québec pour différentes en fait, des œuvres qu'il a fait, mais il a aussi illustré un livre de Robert Lepage, entre autres. Mm-hmm. On a également Anouk Héberge, qui est une artiste extraordinaire, qui nous présente deux œuvres dans ce collectif-là. On a aussi Monkey, les gens le connaissent aussi peut-être à cause de la scène hip-hop. D'ailleurs, ouais. Il est présentement en Europe en tournée justement pour sa musique. Mm-hmm. Mais c'est également un muraliste, il a fait des murales à travers le monde, donc c'est aussi un artiste visuel. On a Guillaume Dessir, qui est un photographe, artiste photographe, qui est extraordinaire aussi, qui a un très bon background au niveau des arts. Il y a des œuvres publiques qu'on peut retrouver à Québec. Et puis, on a Claire-Alexis Turcot, sculpteur, qui présente deux sculptures sur place. Donc, ça complète le collectif 1, finalement, qui est la première exposition.
Exactement. Et c'est une exposition qui justement regroupe beaucoup, beaucoup de pièces. Et ça sera disponible, cette exposition collective, oui, jusqu'au 1er juillet. Mais donc c'est à Québec, cette galerie-là, c'est où exactement?
C'est sur Saint-Paul, au 371A, en fait, pour vous donner une référence très simple, on est directement en face de la gare du Palais.
Mm-hmm. Voilà.
Donc, c'est facile à trouver. Puis, c'est un beau coin. Donc, vous pouvez profiter pour faire d'autres choses après de passer à la galerie.
Exactement. Il est 16h20, mais là, à 17h, vous organisez un événement aussi?
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est le vernissage de l'exposition Collectif 1, mais on souligne aussi l'ouverture officielle. C'est-à-dire qu'on est quand même ouvert depuis février, mais avant l'exposition du collectif qui commençait début mai, il y avait seulement les œuvres de Caro et moi qui étaient présentées dans la galerie. Mais là, ce soir, donc, on souligne l'ouverture officielle et en plus, c'est le vernissage de Collectif 1. Donc, à partir de 17h, c'est un 5 à plus. Ouais. On met personne dehors, ça se transformera pas en piste de danse plus tard. Mais je veux dire, les gens veulent prendre le temps de souper et venir voir après les artistes. Il y a quand même plusieurs artistes qui sont présents aussi. Ça va être très cool.
Et justement pour cette exposition-là, Collectif 1, comment est-ce que on a parlé des nombreux artistes qui vont exposer, mais comment est-ce que le choix a été fait? Est-ce que c'était justement des gens qui étaient proches de vous, des gens que vous avez l'habitude de travailler avec? Est-ce que c'était des choix? Comment ça s'est passé?
Ben, je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça. De toute façon, dans l'année, on est déjà en train de travailler sur notre calendrier d'exposition. Il y a encore plein d'artistes qu'on veut inviter à exposer avec nous. Mais oui, il y en a avec qui on avait quand même des liens de connaissances. Il y en a plus ou moins, mais tu sais, nous on a regardé justement des artistes qu'on avait le goût de partir en fait la galerie avec ces artistes là, et puis voilà, on les a approchés, mais tu sais, là on en a sept, c'est on n'est pas un centre commercial non plus en termes de grosseur, mais je veux dire, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de faire un choix parce qu'on aurait pu en choisir 20 pour la première exposition, puis on n'aurait pas eu de misère à en choisir 20. Mais à un moment donné, il fallait faire des choix, tout simplement. Donc, mais c'est un peu tout ça. C'est de l'intérêt pour l'artiste en tant que tel, parce que même si on la connaît, faut que ça aille plus loin que ça, faut que ses œuvres nous plaisent, faut que sa démarche nous plaise. C'est pour quand même, nous, on regarde beaucoup l'humain globalement, puis faut avoir un intérêt pour l'artiste en tant que tel, et pas juste pour ses œuvres, mais bien pour les deux. Fait que c'est un peu à partir de ces critères-là qu'on a choisi les artistes qu'elle exposait avec nous pour la première exposition.
Tout à fait, ça va se passer à la galerie TNT. Je voulais te questionner par rapport justement au titre que vous avez donné. On comprend que c'est Sylvain Tapin et Caroline Turcotte, donc les deux T, mais est-ce qu'il y a une autre signification?
Oui, ben c'est ça. Il y a comme le côté, moi, ça, je m'amuse à dire un peu le petit côté quétaine des deux T, puis ça me dérange pas. On l'assume tout pleinement. Mm-hmm. Mais il y avait, en fait, l'idée vient de, on veut comme galerie offrir une proposition qui est un peu éclatée. Okay. Donc de là le TNT, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des expositions avec des artistes établis, mais tu sais, on souhaite aussi éventuellement présenter des expositions thématiques où ce qu'on peut aller chercher des excellents artistes mais qui n'ont pas nécessairement la chance d'exposer en galerie. Puis l'exemple que je donne toujours, c'est les tatoueuses et les tatoueurs qui sont d'excellents artistes. Oui, ils font des œuvres sur les corps humains, mais on retrouve pas souvent en galerie d'autres œuvres qu'ils peuvent avoir fait. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, je dirais la même chose avec la BD. Heureusement, ces temps-ci, il y a quelque chose d'extraordinaire à l'espace 400e pour la BD, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de galeries ou d'espaces dédiés à la BD à Québec, donc il y a une exposition thématique là-dessus aussi. Fait que voilà, c'est un peu le volet éclaté qui fait qu'on fonctionne pas nécessairement comme d'autres galeries, mais voilà, fait que ça provient de là.
Et voilà, je parlais avec Sylvain Tapin pour l'ouverture officielle de cette galerie TNT. C'est ce soir à 17h au 371A sur la rue Saint-Paul, direct en face de la gare du Palais. Et ben on se dit à la prochaine, Sylvain. Merci de passer à l'émission.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Yeah. 89 sur le dashboard, on flash sur Saint-Laurent. Je parle pas du boulevard, je parle du motherfucking fleuve, man. Tout l'équipage en deck, Lil Billy, double L, let's go. Rien à foutre d'un yard, on a le vent dans les voiles. Back et par Poseidon, nous chavirer, essaye donc. On va répondre comme Frontenac. Petit snack pour nos canons, mange une claque. S'il faut, on sort le Zodiac puis les canaux. Boy, on fly avec le vent de travail. On voit tous les nœuds sur la corde. Pitch up, pick up les belly en Nouvelle-Écosse. Les bateaux dans la baie, nous watch et faire des donuts. Nos six chiens, ils se connaissent pas les fausses nœuds. Let's go!
Si les fronts, ça va tout le temps bon. You're like a spare part of the month. Si les fronts, ça va tout le temps bon.
Sur mon gros bateau, un filet de sable. And I don't give a fuck. part la voile d'en avant. Yeah, trois mois sur mon cerveau. J'suis parti genre 23 mois sur mon cerveau. J'gueule, on part ma voix dans le vent. Même quand le ciel est gris comme mon cerveau. J'catch les waves comme un cell phone. Bien loin des bancs d'école ou bien du son des clubs. On est en tête du vent des clubs. On fait ce sans éclat comme Alexandre à Pékin. J'vois l'horizon, je bégaye devant l'immensité. J'en oublie toutes mes séquelles. Ah yeah, j'suis gone, pis j'sais pas quand j'suis back, man. La lumière des phares me fait sentir comme Batman. Qui se passe des deux bords, moi j'en ai rien à Batman. Puis même quand ça tangue, ben solide sur mes Pac-Man.
Si les prunes, ça va tout en bon. Yeah. You're like a spare friend of the month. Si les prunes, ça va tout en bon.
Yeah. Sur mon gros bateau, un filet sans bobos. Peut-être qu'un long fleuve tranquille. Mais life ça fait comme rien d'autre qu'une piscine à vague. Je vois la terre disparaître, puis je sais qu'elle va manquer. Mais y'a aucun regret depuis que j'ai hissé le fer. Et je suis la star de la marina. Pull up comme Link dans le water temple avec mon ocarina. Harponne les langoustines, et ça c'est la routine. Mais chaque jour un nouveau monde quand je mets les pieds sur le pont.
Blue sailboat à la mi-temps de la baie. Me demande que je vois la baie aussi l'autre côté. Avant les plans douceurs. Ah bon, monsieur Fade, des fake and des gros bras et puis des protein shakes. Nous occupe d'un beau petit pontoon qui s'obéit. J'en fais voir des tracks qui frottent des offres sur des cachets. Tous les restes d'une porte est gris cassé. Ha ha, t'es qui devrait être jet d'une miette, moi un fricassé.
Fricassé pour nous autres, ça veut dire comme être kind of burnt out ou des fois high ou sous, juste comme generally comme f***ed up, I guess, dans la tête. Le dernier petit bout du verse en fait dire comme we make the best tracks, all you little pontoon boat rider losers font des whack tracks, so I guess c'est comme peut-être que vous devriez être moins f***ed up, mes amis, that's what it means.
Tous les lundis
sur les ondes de Chiz
à 13h, c'est Écoute Locale, les la playlist.
Ben non, c'est les entrevues.
Mais non, c'est une playlist.
On s'est dit 13h les entrevues.
Mais oui, mais c'est moi qui l'anime là, je le sais, je monte ça,
saison,
je fais une
les
sélection
gens
des artistes
heures,
là, puis tout le monde qui... c'est
et fais-la donc toute seule dans l'émission.
Bon, OK. Un lundi sur deux à 13h, je vous présente ma sélection des dernières sorties musicales de la Ville de Québec.
Un lundi sur deux à 13h, je reçois un artiste de la scène locale de la Ville de Québec pour jaser de musique. Avec Guillaume Pepin,
Émilie Rioux, Écoute Locale sur les ondes de Chiz 94.3. Bon, t'es-tu contente, là?
Oui.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Motherfuckers on the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute Locale avec Chiz 94.3.
Enfin retrouver le bon côté de mon lit.
retour à Chéri, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h32 et on parle avec celle qui chantait en ce moment. Elle s'appelle Ultraviolette. La chanson s'appelle Je l'ai laissé. Salut Ultraviolette.
Salut, ça va bien?
Ben oui, ça va toi?
Oui, merci.
On se parle parce que, ben entre autres, cette chanson-là est sortie vendredi dernier. Mm-hmm. Et c'est la première de ce projet. Comment est-ce que tu perçois ça? C'est comme un plongeon, c'est comme...
Disons un plongeon longuement médité. Ça faisait longtemps que je voulais sauter.
Ouais.
J'ai essayé de sauter une couple de fois avec plus ou moins d'aplomb. Mais là, j'avais tout l'aplomb dont j'avais besoin apparemment, ouais. Parce que je suis contente de ma sortie, je suis contente de ma toune, je suis contente de tout.
Ouais.
Je suis bien, bien heureuse.
Avant qu'on arrive à cette chanson-là et du vidéoclip, on pourra parler de tout ça, mais comment est-ce que la musique a commencé pour toi? Je sais que, justement, c'est pas ta première chanson.
Non, c'est ça. J'ai commencé vraiment... Ben, tu sais, l'histoire classique, là, ma mère m'a inscrite à des cours de piano, puis là, j'ai commencé à chanter.
Ben,
le
classique, il y a le piano, il y a la guitare. Toi, ça a été, ouais, du côté du piano?
Oui, c'est ça. Finalement, aujourd'hui, je joue de la guitare plus que du piano.
OK.
Fait que la transition, la boucle est complète, tu sais.
Voilà, les deux instruments sont faits. Donc, t'as commencé à faire des cours après ça.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, moi, je veux interpréter des chansons ou je veux en faire de mon plein gré aussi?
J'ai toujours trouvé une espèce de vulnérabilité, autant qu'une espèce de puissance dans la voix. Tu sais, au début, j'avais commencé à chanter des tunes d'Isabelle Boulay. C'est beaucoup ça qui jouait à la maison.
Okay.
Puis, entre-temps, je me suis vraiment éloignée beaucoup de ça. Mais on dirait que c'est une espèce de sensibilité qui m'a toujours autant attirée. Puis, je me retrouvais beaucoup là-dedans, tu sais.
Okay.
Puis là, après ça, t'sais, j'ai fait les études en musique ici à l'université.
Mm-hmm.
Après ça, j'ai fait le traditionnel parcours de cover dans les bars et les restaurants de ce monde. Ben non, pas de ce monde.
Québec.
On serait pas là à en parler si c'était le cas, tu sais. Mais ouais, de Québec, c'est ça. Puis toujours en travaillant sur mon projet de compo en parallèle. Puis là, c'est vraiment avec la pandémie, ça, t'sais, j'ai pris un certain recul. La pause a forcé... à se poser des questions que peut-être je m'étais jamais vraiment posées auparavant.
Par rapport à la musique ou en général? Les deux?
Oui. disons les deux, effectivement, mais c'est beaucoup les questions que je me suis posées par rapport à la musique qui m'ont comme finalement donné le goût de, tu sais, de donner un dernier coup dans mon projet. Parce qu'avant la pandémie, Ultraviolette n'existait pas. T'sais, moi, j'existais, mais Ultraviolette, ça fait pas longtemps qu'elle existe. Mais elle a toujours été là au fond de moi, tu sais, à quelque part. Puis il fallait juste que j'aille la chercher au plus profond de mon être.
Ben, c'est justement un beau lien qui nous mène à Ultraviolette. Tu l'as ramené du plus profond.
Ouais.
C'est quoi, justement? Comment tu la définirais? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement... Je sais pas si alter ego, c'est quelque chose qu'on pourrait dire.
Oui,
mais
oui, je pense que oui.
OK.
Ouais.
Puis comment est-ce que tu l'as trouvé, justement, cette autre version un peu de toi?
En fait, tout est comme partie du nom... Parce que je savais vers quoi je m'enlignais. Je savais ce que je recherchais comme... Tu sais, comme... ce que je voulais projeter comme en tant qu'artiste.
Mm-hmm.
Puis quand le nom Ultraviolette est arrivé sur la table, c'est deux mots que je trouvais super intéressants parce qu'il y a vraiment une grande dualité entre le ultra puis le violette. Il y en a un qui est fort, l'autre est doux. Puis les rayons ultraviolets, c'est littéralement une lumière qu'on peut pas voir.
Mm-hmm.
Fait que je trouvais ça super intéressant comme concept, puis comme image aussi, c'est super éloquent.
Ouais.
Puis ça représente une dualité qui a toujours eu à l'intérieur de moi, puis que j'avais toujours voulu mettre en image.
Mm-hmm.
Puis je pense que Ultraviolette, c'est ça qu'a fait, à mettre en image un côté vraiment fort, assumé, mais un côté super fragile en même temps. Tu sais, tout ça cohabite en moi, puis c'est correct, puis... Puis je l'assume. Puis en fait, tu sais, je pense que c'est ça la nature humaine. Une force et une faiblesse qui cohabitent puis qui prennent la relève l'un de l'autre selon les événements de la vie, les expériences.
Et Ultraviolette a aussi sorti Je l'ai laissé. Puis cette chanson-là,
tu devais l'annoncer à tout le monde que c'était, cette histoire-là était terminée. Ça part d'où?
Ça part de beaucoup plus loin que les gens autour de moi peuvent le penser. Fait que, je remets les pendules à l'heure en ce moment avec toi, Félix. Là. c'est une vieille histoire d'amour, une chanson qui a été écrite et réécrite vraiment souvent.
Qui a été sortie des Boulamites.
Oui, exactement. Puis, en fait, je l'ai réécrite une dernière fois avec Jérôme 50. Il m'a apporté son aide pour faire une grosse séance de coécriture qui a vraiment mené à bout la chanson, finalement, après littéralement des années de virer les mots à l'envers, virer le concept à l'envers. Tu sais, je l'ai laissé, c'est vraiment pas un concept nouveau, mais je trouvais ça intéressant de l'apporter comme ça parce que ouais. Crime, j'en reviens à la dualité de quelques secondes plus tôt. Tu sais, je l'ai laissé, oui, je suis contente d'avoir fait. Tu sais, c'est une chanson super dansante, groovy, mais il y a aussi tout le côté
dramatique.
C'est ça, le refrain, c'est je l'ai laissé, triste fatalité. Oui, c'est triste, oui, c'était inévitable, mais je danse sur la toune pareil. T'sais.
Life goes on.
Ouais, c'est ça.
Je veux te nommer Jérôme 50. Il va d'ailleurs être à l'émission demain, mais.
Salut Jérôme.
Qu'est-ce que. Tu sais, parce que on le sait, Jérôme, il fait de la réalisation, il aide pour les textes, mais qu'est-ce que Jérôme a apporté à... Tu parlais d'une autre version du texte où, finalement, ma question, c'est... c'était comment votre façon de travailler, puis surtout, comment est-ce que Jérôme apportait de son côté? Est-ce que c'est par des questionnements qu'il te faisait? C'était des propositions? Comment ça fonctionnait?
Effectivement, il y a un processus assez intéressant... on se connaissait pas avant, fait que lui il a voulu vraiment se mettre dans le bain effectivement du thème de la chanson. Il m'a comme questionné sur ça venait vraiment d'où, puis comment je me sentais par rapport à ça. Puis à partir de là, lui il fait des suggestions. Puis je trouve que ce qui est intéressant quand on écrit avec Jérôme, c'est que lui il ancre beaucoup les choses dans le présent. Puis dans mes chansons, en général, j'ai toujours trouvé que j'abordais plus des concepts plus vagues ou des trucs pas super éloquents en bout de ligne. Puis Jérôme, je pense que c'est ça sa force. Puis c'est pour ça que je suis chanceuse d'avoir travaillé avec, parce qu'il a vraiment mis des images fortes sur des concepts que tout le monde vit, puis à différents degrés. Mais là, tout d'un coup, on dirait que ça prend un degré de plus parce que t'sais, en mettant une image, visionner le film en fermant les paupières, t'sais, tu repenses à la rupture, tu dis ah, j'aurais-tu dû dire ça autrement. T'sais, là, tout d'un coup, ça nous ramène à quelque chose qu'on a vécu, un sentiment, ça nous rappelle des souvenirs, en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Jérôme. Il est beaucoup là-dedans.
C'est d'amener des images pour faire un peu vivre ces souvenirs-là.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment intéressant, puis je pense que on va pouvoir continuer sur cette voie-là avec Jérôme demain à 16h15, manquez pas ça. Mais je suis en ce moment avec Ultraviolette pour parler de sa chanson Je l'ai laissé, qui va d'ailleurs être accompagnée d'un vidéoclip qui lui sort lundi. C'est avec Agrume Agrume.
Oui.
Parle-moi de ce projet-là de vidéoclip.
Agrume Agrume, ça a été un autre gros coup de cœur parmi les personnes que j'ai rencontrées dans tout mon processus de lancement. C'est deux filles tellement créatives, super sensibles, habiles dans leur art. Puis je m'étais juste fait parler d'elles par un ami en commun qui avait travaillé avec elles aussi. Puis pour l'essence de ma chanson, je trouvais ça super important de faire affaire avec... une gang de filles, parce que c'est très girl power, mon affaire. Fait que c'est une touche qu'ils ont su apporter vraiment super, autant délicatement qu'avec vibrance dans mon clip. Fait que j'ai hâte de montrer ça à tout le monde. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes.
Comment est-ce que tu préparerais le public qui va voir ce vidéoclip-là? Aurais-tu une phrase pour comme un genre de prélude?
mon Dieu, j'ai envie de dire juste bienvenue dans mon intimité, peut-être.
OK. Ouais. Ben, on va, c'est sur ces mots qu'on va attendre ce vidéoclip-là lundi. Et avant qu'on se laisse, comment est-ce que tu prévois ton été, le reste de 2022? Spectacle, création, comment ça se passe?
Beaucoup de création. J'ai 3 tunes qui s'en viennent.
Quand même.
Oui, oui.
Est-ce qu'on a des dates?
Et Non, pas encore. Même moi. Ben,
OK, okay,
pense
on va garder ça.
Je vais peut-être début juillet pour la prochaine qui va sortir.
OK.
Une chanson m'a été donnée par Jérôme, justement. Une autre a été écrite avec son aide. Puis la dernière, c'est mon bébé à moi toute seule. Fait que je vais sortir ça pêle-mêle. Puis pas de show à l'horizon, mais qui sait, je vais peut-être me laisser surprendre. Puis sinon, on se dit sur une scène près de chez vous en 2023, certainement.
Et voilà, ben c'était Ultraviolette. Merci d'être passé en studio.
Merci, Félix.
On y va en musique avec Alors de Louis-Adrien.
Alors, j'ai attendu encore, j'ai perdu mon temps à regarder dans le noir, à espérer qu'un jour tout me ramène encore à toi. Trop tard, en retard sur les autres, j'ai cherché le nom du monde et de l'espoir. Passé le temps des pommes, je m'envole et je tombe.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez alors la chanson de Louis-Adrien Cassidy. Je suis dorénavant en compagnie d'Émilie Rioux à la co-animation.
Oui, eh bien, c'est une demi-émission de co-animation, mais c'est mieux que rien.
Et oui, c'est mieux
Bonjour
que rien.
Bonjour à tous.
Et on passe maintenant à l'entrevue avec Anne Bayard, qui est l'initiatrice de le projet Concert pour toutes les oreilles. Salut Anne Bayard, ça va bien?
Salut, ça va bien.
Donc, on se parle, oui, justement, pour cette série de concerts pour toutes les oreilles qui vont être, entre autres, de passage à La Chapelle le 14 mai prochain, c'est donc samedi, c'est à 11h et ça va être Damien Robitaille qui va participer à, justement, ce concert-là. Il y a définitivement une idée derrière ce projet-là qui est Concert pour toutes les oreilles. Anne Bayard, d'où part cette idée-là?
Mais en fait, cette idée, c'est vraiment de donner accès à l'expérience du concert en salle à tous, donc aux familles. qui n'ont pas accès, parce que souvent les concerts, c'est tard le soir, c'est long, c'est fort. Mm-hmm. Donc pour les plus jeunes, c'est pas vraiment accessible. Puis souvent, les enfants écoutent la même musique que leurs parents. Donc ce qui tourne à la maison, tout le monde l'aime, mais seulement les parents peuvent voir les artistes en concert. Donc c'est de là qu'est venue cette idée-là, mm-hmm. de s'associer avec les salles de spectacle de la ville de Québec pour programmer une deuxième représentation d'un artiste qui est déjà là. Donc Damien va être là vendredi soir à la Chapelle. Et puis, samedi matin, 11h, ben, là, c'est ouvert à tous parce que c'est sur une heure qui est accessible pour les familles. Ça va être un petit peu moins fort. Puis, ça dure juste une heure aussi, donc pour être adapté au temps d'attention des plus jeunes.
Anne, si Émilie, je voulais te demander, il y a quand même beaucoup de contraintes pour les musiciens. Souvent, dans une journée, tu sais, il y a un soundcheck qui, généralement, a lieu en après-midi. Ça fait en sorte qu'il faut quand même réorganiser un petit peu l'horaire. Il y a, oui, une adaptation peut-être du concert, du contenu du concert, mais est-ce que c'est compliqué pour vous d'organiser tout ça et de convaincre les artistes également de faire deux sets dans la même journée, ce qui peut être quand même facile?
Ben, en fait, au niveau de l'organisation, oui et non, c'est sûr que c'est une petite jonglerie de calendrier, mais comme là, Damien, par exemple, il vient le vendredi soir, c'est sûr qu'il dormait à Québec, donc faire une deuxième représentation le samedi à 11h, c'est moins d'aménagement. C'est sûr que dans la même journée, ça, ce serait plus exigeant. C'est ça qu'on avait fait avec Elage Diouf au mois de mars. Ça s'était bien fait, mais c'est sûr qu'il faut que les artistes soient ouverts à faire deux shows dans la même journée. Mm-hmm. Puis, par contre, pour le moment, quand on ne rencontre que de l'enthousiasme de la part des artistes qu'on approche pour faire un concert pour toutes les oreilles.
Et ben justement, c'est dit pour toutes les oreilles, donc ça va être avec un niveau sonore plus, ben on va dire, un peu diminué de la normale. Mais est-ce que ça fait en sorte que la performance des artistes est comme modifiée? Est-ce que c'est une performance qui ben, va être suggérée de façon acoustique ou comment est-ce que vous avez envisagé ça?
Non, pas forcément. C'est vraiment dans les balances de son qui sont faites, qui sont un peu plus, qui sont plus basses. Là. Mm-hmm. Puis il y a des aménagements possibles là, selon la formation. Là, quand il y a du drum, ben là, c'est possible qu'on étouffe un peu son son pour que entendre le reste qui restait dans un niveau sonore qui est agréable pour les enfants, parce que les enfants ont des oreilles plus sensibles, plus fragiles aussi, fait qu'on fait attention à ça.
Tout à fait. Et ben là, il y a Damien qui va être de passage le 14 mai. Il y a aussi Louis-Adrien Castille qui va être là le 8 octobre. Est-ce que vous avez déjà pensé à la suite après ça?
Oui, on travaille déjà sur la suite, donc sur d'autres spectacles à l'automne puis à l'hiver prochain. Fait que pour le moment, on peut encore rien annoncer, mais ça va s'en venir.
Et aussi, c'est une initiative qui, ben là, pour Damien Robitaille, ce sera la Chapelle. La GIF, lui, c'était au Théâtre Champlain, donc c'est un peu, ça peut être dans n'importe quel endroit.
Oui, c'est ça, c'est vraiment une initiative qui est nomade. Donc, on travaille avec les programmateurs des salles de spectacle de la ville de Québec. Mm-hmm. Donc, on regarde ensemble leur programmation, puis on choisit ensemble ce qui se peut, d'une part, dans le calendrier, mais aussi les artistes. On pense qu'ils vont aller chercher donc un public qui a des jeunes enfants, donc un public de parents qui écoute ce genre de musique-là. Et puis, donc, c'est ensemble qu'on cible des concerts avec les différentes salles.
C'est parti, j'imagine, d'un besoin flagrant, tu sais, d'avoir justement cette offre-là qui n'était pas disponible à Québec par le passé. En tout cas, moi, c'est une première que j'entends parler vraiment d'une récurrence pour des concerts qui sont plus tôt dans la journée. Fait qu'on parle de famille, mais on parle aussi de gens qui n'ont pas nécessairement des horaires typiques, donc peut-être qu'ils vont travailler durant la soirée puis qu'ils vont être disponibles le jour. Donc, ça va chercher différentes personnes, différents types de publics également. Est-ce que, Anne, ça partait d'un besoin que toi, t'avais? C'était quoi le point de départ qui a fait en sorte que vous avez, disons, tout organisé ça puis généré ces collaborations-là pour faire ça?
Oui, c'est vraiment parti d'une situation personnelle où j'ai réalisé que je ne pourrais pas partager le moment extraordinaire qui est un concert en salle puis le lien qui se crée avec l'artiste quand tu le vois sur scène. Je pouvais pas partager ça avec mon fils qui, à l'époque, avait 3 ans quand j'ai imaginé le concept. Je n'allais pas pouvoir partager ça avec lui avant plusieurs années, une dizaine d'années peut-être, pour que ce soit une situation d'écoute optimale. Puis, en fait, en réfléchissant à ça, je me suis dit, il y a aucune contrainte qui est insurmontable. On peut faire des spectacles en journée, on peut faire des spectacles moins longs pour les plus jeunes. Fait que c'est de là qui est partie l'idée. Puis, en effet, c'est comme tu le disais, c'est vraiment inclusif parce qu'il y a aussi tous les gens qui travaillent en restauration qui peuvent pas aller au show le soir. Il y a toutes les personnes aussi Ça peut être des personnes plus âgées qui se couchent plus tôt, qui ont moins envie d'être dans une situation plus chaotique, et que ça répond à tous ces besoins là aussi.
Ouais, avez-vous remarqué jusqu'à maintenant une mixité justement du public lors des spectacles en journée?
Ben là, on en a fait juste un pour le moment. Damien, ça va être notre deuxième. Mais pour Elagio, on a pu voir des parents qui venaient avec les enfants et les grands-parents.
Wow.
Donc, une triple génération. Et que ça, c'est sûr que ça crée aussi des souvenirs puis des moments de connexion familiaux qui sont super précieux.
On adore. Pour vrai, c'est une fantastique initiative. J'espère qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui crie au génie tout comme moi, parce que je suis vraiment, vraiment contente de voir ça, parce que c'est comme, on s'en rend comme pas compte quand on le vit pas, j'ai l'impression, mais lorsqu'on vit la situation, on se dit, oh, c'est vraiment fâchant. Et c'est le fun de voir qu'on s'arrête pas là puis qu'on dit, mais il y a sûrement moyen de trouver une solution. Et vous êtes là pour ça, avec cette belle initiative-là. J'espère que ça va se décupler puis qu'on pourra en voir de plus en plus dans les prochaines saisons à Québec.
Ben oui, c'est ça qu'on souhaite aussi, remplir les salles de concert pour toutes les oreilles, puis doubler l'offre à Québec. Là. C'est certain que c'est l'objectif.
Alors voilà, c'était Anne Bayard pour les concerts pour toutes les oreilles. Je rappelle que le prochain, c'est samedi à 11h, le 14 mai à La Chapelle, et ce sera Damien Robitaille.
L'homme orchestre.
L'homme orchestre, justement.
C'est ça, puis il reste quelques billets, il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quelques-uns.
Ben, on invite les gens à aller se procurer leurs billets.
Sur la billetterie de La Chapelle, donc ça va, donc chaque salle de spectacle est différente. Alors, surveillez ça pour Damien Robitaille en après-midi sur la billetterie de La Chapelle dans Vanneuil.
Voilà,
exactement, puis vous pouvez aussi passer par le site de concert pour toutes les oreilles, c'est pourtoutesleoreilles.com, le lien sera à la billetterie.
Fantastique.
Et voilà, ben merci beaucoup Anne.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Je
Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On est avec Émilie Rio en studio. Elle fait sa chronique aujourd'hui, coup de théâtre avec un K.
Coup de théâtre avec un K, vous allez voir voilà. Pourquoi.
Comment ça va, Émilie?
Hey, ça va très bien. Félix, je tenais à être en chair, en os et en
bien
stress.
Bien présent.
Pour être avec toi pour ta dernière semaine.
Oui, c'est dernière chronique, c'est dernière coup de théâtre.
Mais c'est full important. Puis en tout cas, je voulais juste profiter de le très peu de temps que j'ai en onde pour te remercier et te féliciter publiquement auprès de tous nos auditeurs du jeudi pour le travail que tu as fait pendant ces deux années-là, remplacer la quotidienne de Chérie J'arrive. Tu sais bien que c'est bien du boulot puis que voilà. C'est vraiment trippant. J'ai trouvé ça vraiment le fun de te voir aller pendant deux ans puis de te voir grandir là-dedans. Puis de voir... En tout cas, je suis vraiment fière de toi. J'ai vraiment trippé à travailler avec toi également pendant ces deux années-là. Fait que voilà, bravo, félicitations. J'espère que tout le monde est aussi content que moi de tout ce travail-là. Néanmoins, on se doit de faire une chronique.
Il faut parler de contenu artistique et voilà. Culturel.
Il se passe full d'affaires. Fait que j'y vais rapidement. Les gens à la maison, vous sortez votre calepin ou votre téléphone, le tablette, prenez ce que vous voulez. Ça peut être le coin d'une page pour noter ce que je vais vous dire parce qu'il se passe des belles choses à Québec. Pourquoi donc coup de théâtre avec un cas pour vous inviter à aller voir Citoyen K, une pièce de théâtre qui est présentement à l'affiche au Théâtre de la Bordée de la compagnie La Tralée. Ouais. La Tralée, c'est une compagnie de théâtre qui fait plein d'affaires, mais qui s'est spécialisée au fil des années dans le théâtre d'objets. Il y a à peu près personne à Québec qui fait du théâtre d'objets. C'est comme du théâtre de marionnettes, mais au lieu d'être une marionnette en tissu,
c'est n'importe quel objet.
C'est une tasse, c'est un paquet de cartes, c'est un bouquin, c'est un agenda, c'est une lampe. Et donc, tous ces objets-là prennent vie pour incarner des personnages de l'histoire de Citizen Kane, oui. Qui est bon, une histoire phare et un film marquant du monde cinématographique.
Top 1 sur IMDb, apparemment.
Oui, écoute, Citizen Kane, c'est vraiment un classique. Et moi, je ne l'avais pas vu. J'ai essayé plusieurs fois de regarder Citizen Kane.
C'est drabe, on va dire.
C'est un vieux film d'une autre époque qui a marqué les esprits, qui a marqué la manière de faire du cinéma également à l'époque. Mais je n'ai pas été capable encore de le regarder. Mais par contre, c'est vraiment pas le cas pour Citoyen. Citoyen K, qui m'a vraiment bien intégré au monde de Citizen Kane. Citoyen K, donc, c'est du théâtre d'objets, c'est mis en scène par Lorraine Côté. Il y a un paquet de comédiens vraiment chevronnés là-dedans qui sont rendus, donc, force d'admettre, vraiment bons en théâtre d'objets. Mm-hmm. Et ça vous initie donc à cette histoire de Charlie Kane, cet homme politique hyper riche dont on ne connaît absolument rien. Il a ici bâti une villa, on sait comme pas trop pourquoi. Puis devant nos yeux, la mise en scène fait en sorte que la villa, c'est fait avec du stock de bureaux, d'un bureau des années 40. Ouais. Donc, on suit une gang de journalistes qui enquêtent sur Citoyen K, sur Charlie Kane, et qui vont donc dévoiler peu à peu l'histoire de ce personnage-là. Après sa mort, ils font une enquête posthume et découvrent en même temps que le public l'histoire mystérieuse au fil des entrevues. Et c'est raconté en théâtre d'objets. Donc, c'est de la magie. C'est vraiment comme vous retrouvez vos yeux d'enfant quand vous allez voir ça. Et ce qui est cool, c'est que c'est du théâtre en 5 à 7.
Oui.
Donc, on disait tout à l'heure, pas disponible le soir. J'ai pas le goût d'aller voir du théâtre le soir, il fait beau dehors, mais alors en 5 à 7, ce qui est cool, c'est que tu te pointes à 5h, à 5h30, en fait, le show commence et à 6h30, c'est terminé.
Et voilà.
Et en plus, t'as une bière avec le prix du billet.
Puis
et
un lunch.
Alors, ça, c'est vraiment trippant, ça coûte 20$, ouais. T'arrives là, t'as une heure de théâtre.
Tout compris.
T'as une grosse canette de bière où si tu bois pas d'alcool, il y a d'autres rafraîchissements et de la bouffe. Moi, fais-moi manger et boire en regardant du théâtre. Je suis pas loin de la perfection du moment. Je trippe au bout. Et c'est pas pour ça que je donne des bons mots pour Citoyen K. Parce que c'est une excellente pièce présentée à l'aborder pour très peu de temps. Alors, réservez vos billets rapidement.
Pis si vous êtes très, très fan de théâtre, vous restez à l'aborder puis vous allez voir Made in Beautiful, la
Bien
belle province.
Bien sûr, qui est très, très bon également, que t'as aimé aussi, Félix. Donc, vous pouvez faire un plateau double si vous voulez aller voir Citizen Kane puis Citoyen K, pardon. Et ensuite, Made in Beautiful. Il y a encore quelques dates disponibles. Profitez-en. C'est les dernières grosses chunks de théâtre de la saison.
On reste dans les cas.
On reste dans les cas avec Danse K par K, compagnie de danse de la ville de Québec qui a lancé aujourd'hui un balado sur Radio-Canada Audio. Là, c'est rare qu'on parle d'un média sur un autre média, mais c'est quand même pas rien. C'est la première fois qu'une compagnie de danse de la ville de Québec lance un balado sur une grosse plateforme comme celle-là. Et ce que c'est, en fait, c'est 6 épisodes où on a rencontré des danseurs-danseuses qui ont abandonné le métier. C'est un peu plat, des fois, c'est déchirant.
C'est original quand même comme angle.
Tout à fait. C'est pas, on danse, on tripe, on a dû arrêter. arrêté. Tu sais, c'est quelqu'un, tu sais, 6 personnes dont c'était la passion, la carrière, le gang-pain, toute leur vie tourne autour de la danse parce que t'as pas le choix de t'investir littéralement corps et âme pour ton métier et qui ont abandonné à contre-cœur pour 6 raisons différentes dans 6 contextes différents. Alors, c'est ce qu'on nous raconte, ce sont des témoignages. C'est entrecoupé de lectures de poésie également. Il y a un environnement sonore qui englobe tout ça. C'est des petits 15 minutes.
D'histoire. Ça s'enchaîne quand même bien.
Exact. Donc, c'est 6 petits témoignages. C'est vraiment intime, c'est vraiment trippant, puis en même temps, ça nous permet de découvrir la danse ou peu importe les autres arts. C'est le genre d'affaires qui arrive tellement souvent qu'on quitte notre passion, qu'on quitte notre carrière à contre-cœur pour une raison de maladie, pour une raison de contexte, pour une raison d'argent. T'sais, des fois, c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on va quitter un projet. Et je pense qu'il y a plein de monde qui peuvent s'identifier malgré le fait que ça parle de danse cette fois-ci. C'est vraiment un super projet et c'est une belle visibilité pour une compagnie de Québec également. C'est gratuit depuis aujourd'hui sur Audio. Ça s'appelle De la glorieuse fragilité. C'est le nom d'un spectacle que Danse cas par cas a produit l'an dernier. Et c'est la version donc balado de ce spectacle-là. C'est le volet balado. Alors, allez voir ça, je vous en supplie. Puis j'ai une dernière recommandation, si j'ai le temps, Félix.
Oui, bien, rapidement.
Rapidement. Vous tripez improvisation, je le sais, les gens à la maison. Vous remplissez tous les bars à tous les tournois d'impro. La Lubie, d'ailleurs, vient de terminer sa saison avec une salle comble. Bon, bref, vous tripez impro, vous vous dites « Colin, il n'y en a pas assez. » Non, vous ne dites pas ça, il y en a quand même beaucoup déjà. Mais on a une gang qui s'appelle La Chaumière qui vient de partir à la première compagnie d'impro. Alors, qu'est-ce que c'est une compagnie d'impro?
La première compagnie d'impro.
Mais la deuxième, si on veut vraiment, parce qu'il y a le club d'impro qui existe déjà, mais on va dire une première compagnie officielle d'improvisation. C'est pas une ligue d'impro, c'est une compagnie. Donc, une ligue d'impro, c'est une ligue avec des matchs, des équipes, un tournoi, tout ça.
Une compagnie
d'impro, ça produit des spectacles d'improvisation avec une formule différente qui sera pas nécessairement en compétition ou qui aura pas nécessairement de règlement ou d'arbitre. On sort complètement de cette formule-là pour présenter d'autres types de spectacles d'improvisation. Ça, c'est le volet production de show. Et également...
On sort un peu du concept de la LNI.
Oui, non, on s'en fout, là. C'est plus un match. C'est plus un match, on improvise. Okay. Il peut y avoir du long form, par exemple. Il n'y a pas longtemps, c'est la gang de Gabriel Arthaud, Nicolas Drolet, qui ont initié ça, des long form, c'est-à-dire à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis. Il y avait parti des soirées qui s'appelaient Vox Populi. Puis en fait, t'assistais à ça, eux, ils arrivaient, ils te posaient une question à titre de public. Salut, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et ils partaient pendant une heure à improviser autour de ce thème-là, sans filet. Donc ça, c'est assez hallucinant à voir. Ça peut donner un complet gâchis, comme ça peut donner des moments d'extase. Et c'est le risque qu'on prend avec ce type de compagnie de théâtre-là, c'est qu'on veut revoir un petit peu la manière dont on approche l'improvisation lorsqu'on la met pas dans un contexte de compétition.
Ben c'est ça, parce que pour les gens qui connaissent pas beaucoup l'impro, on se dit c'est ça, c'est strictement
la
ça.
LNI, mais là,
c'est tellement plus libre.
On est rendu ailleurs, on peut faire autre chose, on peut créer des spectacles d'improvisation qui soient complètement ailleurs. Il y a également un volet d'école d'improvisation qui va avec ça. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que demain, le vendredi 13, la journée qui porte malheur, tout le monde triple là-dessus. Donc,
c'est la journée que j'ai choisi pour partir.
Ben voilà! Mais la dernière journée, donc, qui est relancement de cette compagnie-là, ça se passe à la source de la Martinière, qui est devenue le quartier général, en quelque sorte, de cette gang-là. Et donc, ce sera une belle manière de découvrir plusieurs exemples de ce qu'ils vont offrir. Il y aura la Coupe Québec vendredi. Ça, c'est comme une espèce de pastiche. Ils vont comme avoir une grosse coupe comme une espèce de compétition, si tu veux, là, mais avec les meilleurs joueurs de la ville de Québec des 10 dernières années.
Un All-Star match.
Un All-Star match pour commencer ça. Donc, c'est différentes formules. C'est super éclaté. Ils lancent ça vendredi 13. Il restait quelques billets seulement. C'est à la source de Martinière que ça se passe. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que pour l'improvisation à Québec, on est en plein milieu de la professionnalisation de l'improvisation. On veut que ça soit respecté, reconnu et que les gens qui font de l'impro et qui en font à tous les jours puissent avoir un salaire et puissent ultimement peut-être vivre de ça.
Improvisateur, c'est le nouveau influenceur.
Mais peut-être, en fait, c'est comme des comédiens, tu sais, c'est comme des comédiens, c'est ce qui joue sans texte.
Exactement ça.
En tout cas, il y a plein d'enjeux autour de ça et j'en ai parlé avec Gabriel Arthaud, une entrevue qui va se retrouver dans quelques heures sur le chiz.ca pour vous parler davantage donc de La Chaumière, qu'est-ce que c'est ce projet-là. Mais je vous invite tout d'abord à aller au lancement demain soir si vous n'avez pas quoi faire de votre peau. Belle place à aller, la source de la Martinière, pour aller rencontrer des gens qui s'investissent vraiment beaucoup pour l'improvisation dans la ville de Québec avec un K. Alors voilà, c'était le lien. Donc, 3 activités qui sont sur mon radar, en fait, dans ma mire aujourd'hui. C'est une belle journée d'été, de soleil, et on a le goût de sortir. Moi, ça nous donne de l'énergie.
Jeudredi.
Mais moi, je fonctionne à l'énergie solaire comme une plante.
Ouais.
Alors, quand il y a du soleil, je suis en vert également. Donc, je suis littéralement une grosse fougère. Et j'absorbe l'énergie du soleil. Ça m'en donne pour me propulser ailleurs, aller voir, aller entendre ce qui se fait à Québec. Alors, je vous invite à faire de même. Ma belle gang, de Fougère 94.3.
Merci, Émilie. Ce fut un plaisir de collaborer avec toi pour Chérie, j'arrive. Il est 16h06, la pub de 17h est un peu en retard, mais on y va au retour. On parle avec Alex Tremblay-Lamarche pour sa chronique Histoire de lire.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
La semaine prochaine c'est good. Désolé j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Sophia Belle présentera son tout premier album Anxious Avoidant le 13 mai à l'Anti. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 13 mai à l'Anti. Billets en vente sur lepointdevente.com.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
On est de retour à Chiz 94.3, oui. Vous écoutez, chérie, j'arrive.
Sur mon les... Dieu, t'étais-tu pas prêt?
J'étais prêt, j'étais prêt. On est très prêt, on revient, on est en onde avec Émilie Rioux et Alex Tremblay-Lamarche pour la dernière chronique, la chronique Histoire de lire. Comment ça va, Alex?
Ça va bien, ça va faire drôle sans toi.
Ben, on verra qu'est-ce que ça deviendra. on va pouvoir continuer de oui. t'entendre, entre autres, à 3600 secondes d'histoire. Justement, Histoire de lire, on va parler aujourd'hui de la ville de Montréal, la grande ville, comme on appelle, qui va fêter imminemment son anniversaire, son combien de tiers?
380e en 2010.
Un chiffron.
Ouais. Non, mais c'est un chiffre. Mais tu sais, on n'en parle pas assez souvent, effectivement, l'histoire de Montréal à Québec. Bon, à Québec, effectivement.
Ici, on a le 400e.
On avait le 400e, mais eux autres, ils ont fêté leur 375e il y a 5 ans. Ils ont quand même fait toute une série d'activités pour l'occasion. Et il y a quelques livres qui sont sortis récemment sur Montréal et j'avais envie de profiter du 17 mai prochain qui sera la date à laquelle Chomédé de Maisonneuve a fondé Montréal, à 380e anniversaire, pour vous parler un peu de l'histoire de Montréal. Et je vous propose qu'on le commence avec la Bible sur le sujet. l'histoire de Montréal et de sa région sous la direction de Danny Fougère.
Voilà le lien.
Fougère! Voilà!
Voilà! Hein? Tu l'avais vu.
Un venir. Cousin à moi.
Donc c'est une véritable Bible, on apprend tout sur Montréal?
Oui, parce que dans le fond, c'est la collection de l'INRS qui a voulu vraiment documenter chacune des régions du Québec et qui a confié à un groupe de chercheurs. Donc oui, effectivement, c'est ton cousin Fougère, professeur à l'UQAM qui a dirigé le tout, mais il s'est entouré de nombreux chercheurs dans différentes universités, notamment à l'INRS, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'UQAM, etc., pour documenter l'histoire de Montréal des origines jusqu'à aujourd'hui. Et cette collection-là, la raison pour laquelle elle est particulièrement intéressante, c'est notamment parce que, effectivement, le livre peut, a priori, paraître un petit peu effrayant parce que, bon, on a deux tomes, c'est quand même assez épais, mais la table des matières est tellement précise que, et l'index aussi, qu'on s'y retrouve super facilement. On a des tableaux qui sont géniaux, un peu d'images aussi, et donc on est facilement capable de cibler. C'est l'histoire de la vie culturelle qui t'intéresse dans les années 1950, l'époque où Montréal était une capitale importante de l'histoire de la peinture, ben il y a un texte là-dessus. C'est davantage le renouveau religieux au 19e siècle qui t'intéresse avec Monseigneur Bourget, ben il y a un texte là-dessus. Il y a vraiment de tout. Autant effectivement, on part des débuts avec le mythique village d'Hochelaga avec des textes de Roland Viau qui tente effectivement là de nous replacer dans le contexte et de trouver où était Hochelaga, qui nous parle de l'arrivée de Maisonneuve, de l'arrivée de Champlain, parce que Champlain va aller faire un tour retour à Montréal au début du 17e. Puis
c'est, quand même, c'est quand même drôle comme phrase. Champlain va faire un tour à Montréal. Ouais. Ben, il va parler pour Champlain.
Oui.
Mais continue ton histoire.
Mais oui, Champlain va faire un tour au début. Puis ben, lorsque Chemédé de Maisonneuve revient une quarantaine d'années plus tard, ben, il n'y a plus personne. En fait, non, c'est pas Champlain, c'est Cartier, pardon, qui au 16e siècle, justement, va faire un tour. Et une centaine d'années plus tard, eh bien, il n'y a plus personne. Donc, on en parle. On parle également, effectivement, de la fondation. On parle un petit peu de tout. Mm-hmm. Tu parlais du pont Champlain. Ben, on en parle, justement, également. Du pont Champlain et des autres ponts qu'il y a à Montréal, puisque à partir, effectivement, bon, du milieu du 19e siècle, Montréal va considérablement se dynamiser avec le pont Victoria. Mm-hmm. Dorénavant, Montréal est relié à l'océan 365 jours par année grâce au chemin de fer qui la relie à la côte atlantique. Ouais. Alors qu'effectivement, bon, ce n'était pas le cas avant. Et bon, ben, avec le 20e siècle qui arrive, il va y avoir tout plein de ponts qui vont se développer et permettre, bon, un exode urbain. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, on analyse Montréal, mais on l'analyse dans son écosystème. Donc, ben, lorsqu'on parle effectivement de l'expansion de la banlieue, on va se pencher notamment sur trois villes types, Lorraine, Brossard et Candiac, qui ont été choisies justement parce que, ben, contrairement, par exemple, à un Saint-Eustache ou à un Longueuil, où il y avait un noyau villageois historique et que la banlieue s'est développée par la suite, eh bien, ces trois villes-là, ben, il n'y avait rien. Il y avait seulement des champs.
C'est strictement, voyons, l'éloignement urbain.
Non? L'éloignement urbain. On en parle ces jours-ci, notamment avec les assises de l'UMQ. Et donc, 1957-1960, dans le cas de Candiac et Lorraine, Brossard, c'est à peu près à la même époque. Et vraiment, bon, on voit le développement de ces villes-là qui, d'un côté, sont assez blanches et homogènes et uniformes, mais qui aussi vont attirer l'immigration, comme c'est le cas à Brossard, avec l'immigration asiatique qui va arriver particulièrement dans les années 70-80.
Donc, il y a une immigration asiatique à Brossard. Ah, mon Dieu Seigneur.
Okay, oui.
Ça, c'est exotique. Plus exotique que je pensais Brossard, quand même.
Oui, Brossard, ce n'est pas que la ville du fondateur de l'Insectarium. Mm-hmm. C'est aussi, effectivement.
Brossard, mieux connu sous le nom de la ville du fondateur de l'Insectarium. Oh, oui. Un beau détail, quand même. Très apprécié.
C'était effectivement des terres qui appartenaient à la famille Brossard.
Wow. Mm-hmm. Okay.
On a donc deux tombes pour l'histoire de Montréal et de sa région. C'est sous la direction de Danny Fougère, mais il y a une équipe de recherche qui est derrière aussi ces deux tombes. On passe maintenant à un livre d'un musée, le musée de Pointe-à-Calière. C'est Montréal capitale. Là, il y a un long sous-titre que...
Pour nous expliquer pourquoi Montréal n'est pas la capitale.
Voilà.
En fait, saviez-vous ça? Montréal a été la capitale du Canada pendant 5 ans.
Du Canada? Quand même.
Du Canada, à rien de Montréal.
Pardon? OK, donne-moi ce livre-là.
Je te le passe.
Ben oui, OK, explique-nous ça.
Et donc... ben, à partir de 1840, après les rébellions des Patriotes, il y a effectivement une union du Bas et du Haut-Canada, l'actuel Québec et Ontario. Et bon, ben là, ouais, mais là, on veut que la capitale soit au Bas-Canada. Non, on veut qu'elle soit au Canada. Fait qu'on va prendre la très bonne décision de faire une capitale tournante. Et donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois trouver un nouveau local, déplacer les hauts fonctionnaires, déplacer la bibliothèque, déplacer les politiciens. Et donc, c'est l'époque où la capitale va se promener entre Québec, Kingston, Montréal et quelques autres villes. Et Montréal, justement, ben, en 1844, lorsque la capitale va arriver à cet endroit, eh bien, on va se poser la question, où est-ce qu'on installe le Parlement? Et on va décider de l'installer dans l'ancien marché Sainte-Anne, qui est juste à côté d'où est le Pointe-à-Calière actuellement. Mm-hmm. Et la raison pour laquelle on a fait ce livre, c'est que, au milieu des années 1840, on va voter des indemnités pour les gens dont les terres ont été ravagées par les armées britanniques lors des rébellions des Patriotes. Et les Britanniques qui habitent à Montréal aimeront pas ça. Mais vraiment, vraiment pas. Et ils vont foutre le feu au Parlement, 25 avril 1849. Et ça va amener effectivement Pointe-à-Calière en 2010 et 2017 à faire des fouilles archéologiques sur le site du Parlement et de l'ancien marché Sainte-Anne et de nous livrer effectivement ce livre tout à fait superbe qui relate effectivement l'histoire des lieux, mais aussi l'histoire des fouilles.
Wow! Donc le Parlement de Montréal, cette chose qui existait. Donc, incroyable. Et c'est ça, c'est la capitale de la province du Canada. Bon, c'est des termes c'est qu'on comprend pas vraiment aujourd'hui parce que c'est vraiment plus ça, là. Ça a vraiment énormément changé. Mais c'est 5 ans qui sont excessivement bien documentés et durant laquelle, mon Dieu, ça a brassé, c'est le cas de le dire.
Ah oui, ça a brassé. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la vie quotidienne des députés parce que, bon, qui dit incendie dit, bon, qu'on fige le tout, effectivement, à la date du 25 avril 1849. Mm-hmm. Fait que oui, il y a des choses qui disparaissent, mais aussi plein de choses qui vont rester sous des couches de cendres. Fait qu'on retrouve effectivement des traces de la personne qui habitait sur les lieux. Il y avait le messager du Parlement, André Leroux du Cardinal, qui habitait au Parlement, comme cela était courant à l'époque. Il y a déjà eu quelqu'un qui habitait à l'Assemblée nationale, le gardien. Okay. Même chose du côté du Palais Montcalm. Le gardien des lieux habitait sur place avec sa femme, ses enfants. C'était comme
c'est
la norme.
C'est un presbytère, là, tu sais.
C'est ça que j'allais dire, mais là, après ça, s'il y a la femme, les enfants, on comprend
non,
que...
Non, non, c'est pas comme un presbytère,
c'est
ça.
C'est aussi différent là, de pouvoir occuper cette place-là pour ta, comme maison, mais en tout cas.
Et comme ça a été et comme ça a été un marché, mais on retrouve aussi des traces de ce marché-là. Mm. Donc on retrouve des crochets de boucher sur lesquels on pendait la viande. On retrouve des coquilles d'huîtres qui venaient de New York parce que bon, à l'époque on était des grands amateurs d'huîtres et également de homard. Donc on retrouve
des
ces éléments-là.
Oui,
oui, non, mais c'est quelque chose, c'est une capitale. Donc effectivement tout converge par là, c'est important.
C'est ça.
Wow.
Puis on retrouve aussi des encriers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on montre ce qu'on a trouvé, puis y compris des livres calcinés. Ça, c'est quand même assez impressionnant parce que bon, ça a brûlé, mais les livres qu'on a retrouvés, c'est des espèces de millefeuilles de cendres collées. Et grâce à des technologies, comme le met de l'avant l'historien Gilles Galichand dans son texte sur le sujet, on était capable de lire le livre et de retrouver en fait ce que c'était.
Chaque page.
Oui, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Bon, le livre en lui-même n'est pas particulièrement intéressant parce que c'est les procès-verbaux des séances de la Chambre, la session 1830, le tome 1 de 2 ou le tome 2 de 2, là, je ne sais plus. Fait que c'est peut-être
mais
pas...
Mais ils ont lu un livre brûlé, c'est quand même...
Ouais.
Tu sais,
qui est comme calciné, là, en espèce de millefeuille. Et on a été capable, grâce à la technologie, de lire ça. C'est une des découvertes, justement, surprenantes qu'on a dans ce livre. Encore une fois, c'est un collectif.
Ouais.
Fait qu'on a été vers des spécialistes de différentes natures. Jean-François Leblanc pour la question de la fiscalité à l'époque, Harold Bérubé de l'Université de Sherbrooke pour les journaux qui, bon, étaient assez radicaux, hein, qui avaient encouragé notamment à brûler le Parlement. Sinon, on va vers Alain Roy, spécialiste effectivement de la capitale. Fait que autant des informations à ceux qui vont plaire à ceux qui s'intéressent à l'archéologie qu'à ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'alimentation, comme c'était un marché, qu'à ceux qui s'intéressent à l'histoire politique ou qu'à ceux qui s'intéressent à l'histoire de Montréal ou juste ceux qui aiment regarder des belles images.
Oui, ça, c'est moi, ça. Je suis la dernière personne là-dedans, mais il y a vraiment des belles illustrations, des photos et des affiches avec des choses. Tu te fais, voyons donc, c'est quoi ça?
Ouais, c'est
formidable. C'est vraiment formidable. C'est une recherche phénoménale et je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire qu'on ait brûlé le Parlement. Voyons donc. Hey, ils nous trouvaient vraiment extrêmes en 2012.
Un peu radical,
hein? En tout cas, fait que.
Mais pour l'anecdote, en 1867, lorsqu'on fonde la province de Québec lors de la Confédération, puis que là, on dit où est-ce qu'on met le Parlement? Ben, la gang de Québec a dit ben, à Québec, mais la gang de Montréal a dit à Montréal.
Bien sûr.
Et un des arguments qui va réussir à nous faire avoir le Parlement, c'est que on va dire ouais, mais à Montréal, ils sont pas fiables, ils vont le brûler, le Parlement.
C'est bon.
Et ben, c'est un des arguments qui a fait que, alors que Montréal était sur un élan et aurait probablement dû avoir le Parlement en 1867, ça l'a ramené à Québec.
Alors, on remercie les Anglais pour ça.
Voilà.
On a un troisième ouvrage, je pense.
Oui, Montréal fantasmagorique de Josiane Poirier.
Oui. Là, on est dans complètement autre chose. On est dans l'histoire plus récente de Montréal, celle des 20 dernières années, celle où Montréal va s'illuminer. On l'a vu également à Québec. Tranquillement, bon, il y a une volonté de rendre l'espace public beau la nuit, de faire des illuminations de bâtiments, mais aussi faire des spectacles de lumière. Comme notamment, il va y avoir Cité Mémoire et Connexion Vivante, qui sont deux spectacles de projection lumineuse la nuit. On va illuminer aussi le pont Jacques-Cartier pour le 375e anniversaire. Et Josiane Poirier, qui est historienne de l'art, se penche sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se mettre à illuminer Montréal et illuminer les villes de manière plus générale? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et surtout, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça?
Ouais.
Et il nous propose par le fait même aussi une histoire de l'illumination des villes.
Okay. C'est ça le fameux pourquoi Est-ce qu'on répond à cette question-là, j'imagine?
Oui. Parce que on a l'impression que bon, illuminer Montréal de nuit, c'est pour rajouter de la vie, que ça soit en fait joli.
Un peu féerique, là, ouais.
Exact. Mais à la base, c'est une question de sécurité. En 1667, lorsque Louis XIV fait suspendre 2736 lanternes précisément à Paris, il le fait en, et il frappe une médaille et ben sur la médaille, il va écrire en latin. Là, je vous traduis. Le tout, la ville rendue propre et éclairée pendant la nuit par les lanternes, la sûreté et la netteté des villes. Il y a donc vraiment une volonté de rendre les villes sécuritaires. À Montréal, même chose, 22 premiers réverbères en 1815. En 1818, on engage 24 responsables pour allumer les réverbères. Et ben, ces personnes-là sont également responsables de, d'agir comme gardiens lors de la nuit. Ce sont les
gardiens
24...
de la ville.
Ouais, ouais. Ce sont les 24 premiers policiers de l'histoire de Montréal. Donc, à l'époque, quand on dit illumination nocturne, on pense également à la loi et l'ordre.
OK.
Ouais. C'est on donc... veut vous voir.
Oui, on veut vous voir.
Il n'y aura plus de coin d'ombre. On va être c'est là ça. Pour veiller au grain à ce qu'on vous voit dans les coins sombres.
Exact. Et ce que constate Josiane Poirier, c'est que tranquillement, ça a évolué dans une perspective un peu capitaliste. L'idée, c'est bon de marchandiser la nuit, marchandiser l'espace public, notamment bon, les nuits blanches qui naissent à Paris en 2002 et qui vont naître à Montréal en 2004. Il y a une volonté effectivement d'investir l'espace urbain, mais dans une perspective un peu capitaliste, dans une perspective où ben, il y a des gens qui sont inclus puis il y a des gens qui sont exclus. Il y a également, effectivement, dans les mises en lumière qui sont liées à l'histoire. Bon, ici, on peut penser au célèbre moulin à images qu'on a eu. Mais à Montréal, ils ont eu un peu la même chose avec Cité Mémoire. Une volonté de pacifier l'histoire, d'enlever les conflits. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Ouais. Et donc, de proposer quelque chose qui est très, très commercial, qui est très, très light.
Ouais. Littéralement.
C'est ça. Plutôt que... Ouais, moi, je l'avais pas vu. Plutôt que quelque chose là, qui est collée sur la réalité historique. Donc, c'est intéressant parce qu'elle elle ne condamne pas les illuminations. Bien au contraire, elle dit que c'est intéressant, ça peut rajouter quelque chose à une ville, mais elle nous permet de jeter un autre éclairage sur la question.
Les jeux de mots fusent de toutes parts.
C'est facile.
Voilà. Effectivement, mais c'est fascinant quand même de voir que nous, on je veux dire, en tant qu'on est des gens qui on n'initie pas des projets de tu sais, nous, comme citoyens, on fait « Ah, waouh, c'est joli. Ah, c'est cute. Hein, on a ça, on embellit la ville, ça prend de la valeur et tout ça. » Il y a un côté touristique également, j'ai l'impression aussi, à ça, à attirer les gens, à créer du « waouh », tout simplement. Mm-hmm. Mais de voir que de quelle manière ça a évolué et quel était le point tournant entre le côté fonctionnel et le côté marketing, disons, entre grands guillemets, c'est quand même super intéressant parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quand même, j'imagine, un moment charnière où ça se passe.
Oui, et ça amène effectivement vraiment une volonté de donner une image lisse de Montréal, de qu'il n'y ait pas de vague, que tout soit en lumière, que tout soit illuminé. Fait que c'est vraiment effectivement une réflexion intéressante sur la ville.
Et même le festival Montréal en lumière, là, je veux dire, c'est quand même... Ouais.
C'est mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ça fait en sorte que Montréal va devenir la ville-lumière.
La ville-lumière!
Oh! Mais le lien que tu fais n'est pas nécessairement infondé, puisque une des raisons qui va amener Montréal à s'illuminer à l'électricité quand même assez rapidement, c'est qu'en 1878, il y a un entrepreneur du nom de Joseph Ambroise Isaïe qui va aller à Paris à l'exposition universelle à la Ville Lumière et il va voir effectivement des lampes électriques puis il va dire « Hey, j'aimerais ça avoir ça à Montréal! » Et le quai du port de Montréal va devenir le premier endroit au Canada en 1880 où on a des lampes électriques qui sont installées et tout ça à cause d'un voyage à Paris.
Ah, wow.
Le voyage qui...
Les voyages forment la jeunesse.
Oui,
voilà.
Forment l'électricité.
Et la ville de Montréal.
Et la lumière.
Fascinant quand même. Donc Montréal, sous tous ses angles aujourd'hui
c'est
dans la chronique.
C'est fantasmagorique même. C'est le titre de l'œuvre de Josiane Poirier, Montréal fantasmagorique. Ensuite, on a parlé aussi du livre du musée Pointe-à-Calière qui s'appelle Montréal capitale. Et on a commencé avec Histoire de Montréal et de sa région sous la direction de Dany Fougère. C'est donc... La dernière chronique Histoire de lire de Alex Tremblay-Lamarche. Merci.
Mais on va quand même continuer à jaser, chers auditeurs.
Oui, Alex est là pour durer. Ça, c'est une chose que je sais, c'est que Alex, il est là pour durer. C'est certain, c'est toujours super intéressant.
Je sais pas trop comment faut prendre ça.
Écoute, je suis pas placée pour parler.
Non, c'est vrai que en termes de durabilité,
en termes de Tanguy, on est quand même de la bonne compétition.
On aime ça, Chiz.
Alors, c'est déjà le temps d'y aller pour la conclusion aujourd'hui, en ce jeudi 12 mai. On a commencé avec Marilyn Léonard, qui est avec nous en studio, entre autres pour parler de sa mixtape Vie d'ange. C'est sorti vendredi dernier avec Audiogramme. J'ai parlé aussi à 16h15 avec Sylvain Tapin pour la galerie TNT. C'est en face du palais. Non, la gare du palais.
En face de la gare du palais.
Et voilà.
Voilà, dans le plus part.
Oui, merci de l'aide, Émilie. Et ben, ça l'ouvre ce soir et c'est disponible d'aller visiter ça, cette exposition Collectif 1 jusqu'au 1er juillet. À 16h30, j'ai parlé avec Ultraviolette pour sa chanson Je l'ai laissé. Et à 16h45, j'ai parlé aussi avec Anne Bayard pour le concept concert pour toutes les oreilles. J'ai parlé avec Émilie Rioux aussi.
Oui, on a parlé de danse, de théâtre, plein d'affaires. Mais bref, demain, c'est ta dernière émission. On invite les gens à être là, évidemment.
J'espère.
Vendredi 13, ça va te porter bonheur.
Je l'espère. Et merci à Alex d'être passé pour ta chronique.
Histoire de lire.
OK, oui.
Fantastique. Hey, ben, merci beaucoup, Félix.
Merci, Félix.
À demain.
À demain. Qu'est-ce qui se passe demain à l'émission?
Demain à l'émission, entre autres, Jérôme 50 qui va être là.
Ah ben.
Il va y avoir Whitey qui a sorti un album. Ça sort ce soir à minuit. Il y a plein d'autres chroniques. On garde un peu de suspense pour demain.
Pour la dernière émission, donc 16h à 17h30. Demain, on sera là pour la... Soyez là pour la dernière émission à Félix. Puis si vous pointez en studio, on va vous prendre par elle. Oui. Venez dire bonjour. Venez faire... On a de la bière, de chiz également dans les frigidaires. Pointez-vous, gros party voilà. De départ de Félix Duchesne.
Ça se passe.
Puis ce soir, les architectes du son.
Les architectes du son à 17h30 et aussi West Indies à 20h.
West Indies! Bye bye!
Salut, bye!
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Son environnement, c'est ce qu'on vit. L'important, c'est de comprendre l'impact des mots, donc de ce qu'on dit. J'ai dû blesser deux, trois gens, dû écorcher des âmes sensibles. Si j'oublie ton prénom, prends pas perso, j'ai d'autres soucis. Si j'oublie mon vrai, moi, dis-moi que je me reprenne tout de suite. Je cours après les ennuis comme les keufs après les homies. Toujours dans mon délire, je roule en fil, retranscris ce qu'on vit. Souvent rien à pleurer dans le coin, rien à faire, donc je m'enivre. Trois mecs dans la nuit à déblatérer sur leurs envies. Hey, fonce des vendredis soirs dans un resto de la Villette. La vie a différents goûts loin de la maison, t'as vu mec. J'ai vu des profits se transformer en soucis trop vite surmenés. Comme si ton sosie te piquait ta meuf sous ton nez. Ok c'est chaud, c'est comment quand ça se passe pas comme tu veux. Avoue que c'est chaud, on traîne des égos parfois plus larges que ceux qui commandent. Mais faut l'admettre, ouais. On se conduit pas toujours comme on voudrait. Suffit de l'admettre et grandir, ok. Je cours après les ennuis comme les keufs après les homies, ok. Toujours dans mon délire, je roule en ville, j'écris des folies, ok. Ce soir s'il fait bon, je bois deux, trois bières avec des prodiges. L'important c'est de comprendre son environnement, c'est ce qu'on vit. Je cours après les ennuis comme les keufs après les homies, ok. Toujours dans mon délire, je roule en ville, j'écris des folies, ok. Ce soir